France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La réponse du gouvernement à la crise agricole, c'est ce projet de loi présenté ce matin qui veut favoriser le renouvellement des générations. Gros plan sur une filière qui attire des producteurs, c'est le fromage comté. À suivre encore, la commission Civise sur les violences sexuelles, enfin relancée. Nous parlerons de cet État américain qui revient sur la dépénalisation de toutes les drogues et sur ce passage télé qui fait réagir toute la classe politique depuis hier soir. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Un député sur le plateau de Cyril Hanouna.
Le problème, c'est que ce député macroniste est président de la commission d'enquête sur la TNT qui vient justement d'auditionner Cyril Hanouna et qu'il a dit sur son plateau du mal d'un autre auditionné, Yann Barthès, concurrent direct du premier. Bref, personne pour le soutenir dans la classe politique, pas même dans son camp.
A tout de suite pour vos explications. Nous serons également en Bourgogne où les professionnels du tourisme s'inquiètent avec les crues actuelles et à quelques jours des vacances. Nous serons aussi sur les routes de Paris-Roubaix. Les coureurs craignent pour leur sécurité. La course a lieu dimanche. À 13h30, nous dévoilons les noms des jurés et des prétendants au prix du Livre Inter. 24 jurés sélectionnés, 10 auteurs, tout cela sous le regard de la présidente du jury, Isabelle Huppert, et avec la responsable du prix, Eva Béton. Donc plus que quelques minutes de patience. 13h50, c'est la France que nous dit la nostalgie des Français pour les années 70. Ce sera avec Eric Fotorino du 1 Hebdo. Juste avant 14h, c'est une chanson, le parolier Jean-François Mondeau demande Yves Montand à Frédéric Pommier. Et puis dans une vingtaine de minutes, bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Votre sélection cinéma.
Je vais vous parler d'un road movie américain, d'un drame sénégalais et d'une comédie dramatique avec Benjamin Biolay.
Un beau programme, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les feux de la colère paysanne ne sont pas tous éteints. Des tracteurs hier dans les rues de Guingamp, les agriculteurs ont dit leur impatience au sous-préfet. Mais les habitants de Dijon ou encore de Rodez ont eux aussi vu défiler les agriculteurs ces derniers jours. Voilà pour le contexte dans lequel est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres le projet de loi d'orientation agricole attendu depuis un an. Sous la pression donc, le gouvernement introduit des mesures de simplification administrative. Il inscrit la notion de souveraineté alimentaire et il tente de faciliter la transmission des exploitations. Gros plan sur ce point dans une minute. D'abord écoutons le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
L'objectif, c'est de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Je le dis souvent, la plupart des gens qui vont s'installer en agriculture ne seront pas issus du monde agricole. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, dans le cadre d'une reconversion. Et donc, on a besoin de travailler là-dessus, et me semble-t-il. Le deuxième objectif, c'est celui de donner un nouveau souffle à notre politique d'installation. Pas de souveraineté s'il n'y a pas d'installation. C'est un élément très important. Dans ce cadre, je rappelle que d'ici 10 ans, 30 à 40% des agriculteurs seront en droit de partir à la retraite. Et puis sécuriser et simplifier, c'est toute l'œuvre de simplification sur laquelle nous travaillons. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que le texte puisse aboutir avant l'été. Il y a des mesures qui sont très attendues par le monde agricole. Et le texte démarre son chemin parlementaire le 13 mai prochain à l'Assemblée nationale.
Le ministre Marc Fesneau, il y a quelques minutes à la sortie du Conseil des ministres. Les ONG de défense de l'environnement, elles sont très critiques sur l'ensemble du texte. Ainsi, le WWF estime que ce texte ne favorise pas le renouvellement des pratiques, pourtant nécessaires, dit-elle, face au dérèglement climatique. Alors, puisque l'objectif premier de ce texte est de faciliter la transmission des fermes, arrêtons-nous un instant dans une région où ça fonctionne, là où l'on produit le fromage comté. Ça se passe dans le Jura, le Doubs et une partie du département de l'Ain. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
2400 fermes au total, et là-bas on trouve des solutions pour transmettre.
Oui, cela passe par une filière petite, très organisée, entre d'un côté les producteurs, vous l'avez dit, les fruitières où sont rassemblés les 400 000 litres de lait nécessaire pour faire une seule meule de 40 kg. Le nombre de meules produites est limité, ce qui valorise donc le lait d'environ 30% par rapport aux autres productions laitières. La filière a donc les mêmes problèmes de départ à la retraite, mais ils arrivent à trouver des repreneurs. Alain Mathieu préside l'interprofession du comté.
Sur la zone d'appellation comté, on est pratiquement à une installation pour un départ à la retraite. On travaille actuellement pour préparer l'avenir en limitant par exemple la taille des fermes, en limitant le nombre de vaches par producteur pour faire perdurer une agriculture familiale avec des fermes qui soient transmissibles et des conditions de travail qui soient acceptables.
Un travail fin, en petit nombre donc, pour un produit très connu et apprécié bien sûr du grand public.
Mais vous nous dites, Mathilde, que cette belle histoire du comté n'est pas transposable à l'ensemble des des producteurs de lait.
Et non, car la filière Comté, comme celle par exemple du Reblochon, se sont emparés d'une possibilité de régulation prévue en tant que AOP, appellation d'origine protégée, explique Caroline Lessène-Errant, directrice générale du CNIEL, qui est l'interprofession laitière française.
Les AOP sont dotés de règles de régulation de l'offre encadrées par le niveau européen qui leur donne une certaine dérogation par rapport au droit de la concurrence et donc la possibilité de limiter les volumes pour créer plus de valeur. Or, zone sous appellation d'origine protégée, on n'y a pas droit. Donc l'ensemble de la filière laitière française est sous un autre régime qui crée des fortes tensions tout au long de la chaîne de valeur.
Et dans le reste de la France, donc la question de la transmission est compliquée. Un producteur de lait sur deux trouve un repreneur seulement. En cause, les revenus, les horaires, les coûts du foncier à louer ou à acheter quand on se lance, la complexité des dossiers à remplir, autant de problématiques que le projet de loi d'orientation agricole entend résoudre. Mais il manque d'ampleur à minima, dénoncent les syndicats.
Merci Mathilde Dehimy pour ces explications. La CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a prouvé son utilité. 30 000 personnes ont témoigné grâce à elle depuis sa création il y a 3 ans. Pourtant, elle est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Le juge Édouard Durand, qui l'a dirigée, n'a pas été reconduit. Il dit avoir été évincé et les deux personnalités nommées pour le remplacer, elles, ont démissionné. Mais cette CIVIS va bien continuer ses travaux. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Avec 4 nouvelles personnalités à sa tête pour la relancer.
Oui, et c'est la nouvelle ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry, qui l'annonce ce matin dans le Figaro. De nombreuses victimes réclamaient le retour à la tête de cette commission du juge Édouard Durand, vous le disiez. Mais pour la ministre, le travail de la CIVIS n'est pas, je cite, une histoire de casting. Il n'a jamais été question d'abandonner ce travail, dit-elle, malgré les turbulences. Pour l'incarner, elle nomme donc 4 personnalités. La magistrate Maryse Lemaine-Régnier, présidente de France Victimes, autre actrice associative Solène Potvin de Face à l'inceste, à leur côté 2 hommes, l'ancien député Bruno Questel, victime de viol dans l'enfance, et le pédopsychiatre Thierry Bobet. Ils ne s'expriment pas pour le moment. L'enjeu désormais, c'est leur feuille de route. La CIVIS première version avait organisé de nombreuses réunions publiques que des victimes veulent voir perdurer. La ministre dit souhaiter plutôt des groupes de parole au sein d'associations, en petits comités. Alors on ne connaît pas précisément les missions de la nouvelle commission, mais une source nous glisse qu'elle laisse ses membres assez libres. Sarah El Haïry insiste toutefois ce matin sur la formation des professionnels qui sont au contact des enfants, sur la question des victimes en situation de handicap aussi. La 40aine de membres de la CIVIS se réunira mardi selon nos informations.
Merci Rémi Brancato. Là, on parle de l'ensemble des violences sexuelles et conjugales en France. Il n'a jamais été aussi important ce chiffre selon une étude publiée aujourd'hui par l'Institut des politiques publiques. 1 million d'affaires entre 2012 et 2021, mais l'immense majorité de ces signalements finissent par être classés, faute de preuves. 86% de plaintes classées pour les violences sexuelles, 72% pour les violences conjugales. L'acteur Harry Habitant lui était accusé de viol par une femme en octobre 2021. Le parquet de Paris décide qu'il n'y a pas lieu de le poursuivre. La plaignante, elle, veut faire appel de ce non-lieu. À Montpellier, une collégienne de 14 ans, violemment agressée hier après-midi par 3 personnes. L'une de ses camarades a été interpellée. Ses jours ne sont plus en danger, indique le parquet. Elisabeth Badigné.
C'est avec cette collégienne que l'altercation a débuté pour une histoire de photos publiées sur les réseaux sociaux. Elle s'en est prise à sa camarade, puis 2 autres garçons extérieurs au collège sont arrivés en renfort. Des coups de pied, des coups de poing qui ont fait lourdement chuter l'adolescente au sol. Sa maman avait été prévenue avant même l'altercation par le principal du collège qu'il fallait venir chercher sa fille. Il avait sans doute compris que la situation était tendue. La maman a donc récupéré l'adolescente qui a été rapidement prise de convulsions avant de tomber dans le coma. Transportée au CHU de Montpellier, les médecins craignaient pour sa vie hier soir, mais ce matin, l'adolescente, toujours dans le coma, était hors de danger. Les collégiens d'Arthur Rimbaud n'ont pas eu cours. Un rassemblement spontané a eu lieu devant l'établissement en présence de la maman, une maman qui dénonce l'inaction du collège. Sa fille, dit-elle, était harcelée depuis plus d'un an.
Précision France Bleu Héros. C'est une bonne vieille méthode pour s'évader de prison. Les scénaristes de films en ont fait leur beurre. Creuser un tunnel, le filon n'est peut-être pas épuisé. Un tunnel en formation vient d'être découvert à Paris et il se trouve, Emmanuel Leclerc, à proximité de la prison de la Santé.
C'est le témoignage d'un technicien d'Enedis qui a donné l'alerte. Il intervenait dans un puits pour des raccordements électriques quand il est tombé sur ce qui ressemble à un début de tunnel. L'agent a fait le lien avec la prison parisienne de la Santé à quelques encablures de là, comme si un ou plusieurs complices d'un détenu préparaient une évasion à l'ancienne par les sous-sols de la maison d'arrêt dans ce quartier du 13e arrondissement de la capitale, déjà riche en cavités souterraines avec les célèbres catacombes qui se trouvent pas très loin non plus. Des sacs de gravats ont été découverts ainsi qu'un lit de camp, sauf qu'il y a quand même un doute, car ce début de tunnel se trouve quand même à près de 450 mètres des premières cellules de la prison, et selon le directeur de l'établissement pénitentiaire, il y a vraiment peu de risques qu'il s'agisse bien d'un projet d'évasion en bonne et due forme, que ce tunnel ne faisait que quelques mètres de long, alors que l'on avait pensé dans un premier temps que la galerie pouvait atteindre plus d'une centaine de mètres, et que cela ressemblerait donc plus à un abri de fortune.
Emmanuel Leclerc, l'Allemagne a relancé le débat en France. Faut-il modifier la législation sur les drogues pour limiter les trafics et les effets sur la santé ? L'Allemagne, où depuis lundi la consommation de cannabis récréatif est légalisée. Mais en la matière, les pionniers se trouvent aux États-Unis, précisément dans l'état de l'Oregon. Nous sommes sur la côte Pacifique. En 2021, cet état était devenu le premier à dépénaliser toutes les drogues. Et bien aujourd'hui, il fait en partie marche arrière. La possession de petites quantités va redevenir un délit, Étienne Monin.
Et il y a 3 ans, quand l'Oregon adopte par référendum à plus de 58% la dépénalisation des drogues dures, c'est une révolution. L'État a toujours été en avance sur la gestion des drogues. Il a été le premier à dépénaliser le cannabis, rejoint par une grande partie des autres États américains. Mais ce retournement de doctrine qui fait de la drogue un problème de santé publique et non plus de répression est unique aux États-Unis. Concrètement, les consommateurs de drogues dures, on parle de cocaïne, d'héroïne, de fentanyl, ont le choix entre payer une amende de $100 ou accepter une évaluation sanitaire. Sauf que le fentanyl, cette drogue extrêmement puissante et accessible, inonde alors le marché. Le nombre d'overdoses a plus que doublé dans l'état d'Oregon entre 2019 et 2022. Et le volet sanitaire avec la prise en charge des consommateurs n'a pas suivi. La consommation de drogue dure est devenue trop visible pour les habitants. La gouverneure démocrate vient de promulguer une loi. Elle pénalise à nouveau la consommation de drogue à partir de septembre prochain. Ce sera un délit puni de 6 mois d'emprisonnement.
Nous parlons des États-Unis. Joe Biden y a réagi la nuit dernière après la mort de 7 humanitaires à Gaza, humanitaires tués par l'armée israélienne. Israël ne protège pas assez les humanitaires, a dit le président américain il y a quelques heures. Israël, de son côté, a reconnu hier soir avoir commis, je cite, une grave erreur avec cette frappe, mais cela ne suffit pas pour l'instant à calmer la vague d'indignation à travers le monde, d'autant qu'on a de nouveaux éléments sur cette frappe israélienne. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, les Israéliens pouvaient difficilement ignorer qu'ils visaient un véhicule d'aide humanitaire.
21h30, lundi soir, selon un secouriste du Croissant Rouge contacté par le Washington Post, c'est l'heure où les explosions retentissent. Quelques secondes avant, les 3 véhicules sont sur la route du retour. Ils longent la côte vers le sud après avoir escorté à l'aller un camion rempli d'aide humanitaire. Et l'armée israélienne a approuvé, selon World Central Kitchen, le déplacement du convoi. Des sources militaires citées par le quotidien israélien Haaretz racontent qu'un drone de type Hermes 450 a tiré 3 missiles consécutivement, près de 2,5 km. L'ennemi sépare la première et la troisième cible, ce qui laisse clairement penser que les frappes se sont déroulées en 3 temps, avec des victimes qui ont tenté de s'enfuir en passant de véhicule en véhicule avant d'être mortellement touchées. Se pose désormais la question de l'intentionnalité et de la responsabilité de cette frappe. Pour Erin Gore, la patronne de World Central Kitchen, c'est une attaque ciblée, ce que réfute le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L'armée parle officiellement de problèmes de coordination avec l'ONG, alors que selon les mêmes sources militaires citées par Haaretz, il s'agirait de prise d'initiative individuelle et d'un manque de discipline.
Thibault Lefèvre à Jérusalem pour Inter. Cette ONG distribuait donc de la nourriture aux Palestiniens. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, Dominique Allen, rentre de Gaza. Il décrit aujourd'hui une situation catastrophique avec, je cite, des gens décharnés qui cherchent de quoi manger. Un séisme d'une magnitude supérieure à 7 la nuit dernière au large de Taïwan. Dernier bilan, 9 morts et plus de 800 blessés, mais les bâtiments semblent avoir plutôt bien résisté à ce tremblement de terre le plus violent pour l'île depuis 25 ans.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Elle fait décidément parler d'elle jusqu'au bout. C'était d'ailleurs l'un de ses objectifs. La commission d'enquête parlementaire sur les fréquences des chaînes de télévision de la TNT. Nous vous avons raconté ici même les auditions de Vincent Bolloré, le patron du groupe Canal, de son animateur star Cyril Hanouna ou encore de Yann Barthès aux commandes de Quotidien. Ça, c'est sur TMC. Eh bien, hier soir, le président de cette commission, le député Renaissance Quentin Bataillon, a présenté le bilan de ses travaux. Et il l'a fait sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna, pourtant plusieurs fois sanctionné ces derniers mois par l'ARCOM, le gendarme des médias. Simon Le Baron, on vous retrouve. Ce passage télé suscite depuis hier soir beaucoup de réactions.
Ah, c'est du jamais vu. Le président d'une commission d'enquête, tout sourire chez l'un des auditionnés pour critiquer un autre auditionné, en l'occurrence Yann Barthès, concurrent direct qui plus est de Cyril Hanouna.
Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante. Il refusait de répondre à nos questions.
Quentin Bataillon qui se laisse aussi aller au passage en répondant à un chroniqueur à cette forme d'aveu.
Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès?
J'ai encore un peu de neutralité, là, je prends pas répondre.
Encore un peu de neutralité. Le député oublie que l'émission de Cyril Hanouna est la plus sanctionnée quand celle de Yann Barthès ne l'a jamais été. Indignation donc, d'abord chez les membres comme Sophie Taillé-Polian, députée Génération, les membres de cette commission d'enquête qui n'a pas encore rendu ses conclusions.
Un président de commission doit assurer la bonne tenue des débats, et les débats ne sont pas terminés, puisque si les auditions, elles, sont terminées, il reste la rédaction du rapport et son adoption. Donc oui, je considère clairement qu'il s'agit là d'une faute.
Une faute aussi pour le chef des députés Renaissance Sylvain Maillard, qui a appelé Quentin Bataillon dès hier soir pour lui remonter les bretelles. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, rappelle ce midi dans un communiqué que les présidents de commission doivent faire preuve de réserve et de discernement. L'Assemblée n'a pas le pouvoir de sanctionner Quentin Bataillon. Ses collègues de la commission, eux, ne peuvent pas le démettre de ses fonctions, mais ils l'appellent à la démission. Lui reste silencieux pour l'instant.
Visionnage télé et analyse signé Simon Le Baron. Ce sera à l'automne prochain le procès des assistants d'eurodéputés du Front National. Marine Le Pen et d'autres personnalités du parti seront jugés pour détournement de fonds publics. Et son père, Jean-Marie, 95 ans notamment, est poursuivi, mais il n'est pas sûr qu'il puisse comparaître. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Car la santé de l'ancien leader du FN pose question.
Oui, selon ses proches, depuis son accident cardiaque et son hospitalisation survenue il y a un an, la santé de Jean-Marie Le Pen a fortement décliné, ce qui l'a conduit à faire de ses trois filles, Marine Le Pen, Yann Le Pen et Marie-Caroline Le Pen, ses mandataires. C'est cette disposition comparable à une tutelle qui a été formalisée en février. Il fallait le faire en vue du procès, explique un ami de la famille. Car si ce mandat de protection future, comme on l'appelle dans le jargon juridique, n'empêche absolument pas de comparaître, il constitue malgré tout un élément à fournir aux magistrats pour savoir si oui ou non Jean-Marie Le Pen pourra assister à l'audience et répondre aux questions d'un juge. Pour son entourage, l'ancien président du FN en est aujourd'hui incapable. À la fois physiquement, il se déplace difficilement, et intellectuellement, ses facultés, sa mémoire notamment, étant désormais altérée. Le tribunal correctionnel de Paris se prononcera, lui, après une expertise médicale prévue le 3 juillet.
Élodie Forêt, là aussi, et comme pour le cannabis, la réflexion a débuté en Allemagne. L'idée du pass-rail, un abonnement, une cinquantaine d'euros par mois pour voyager partout en France via les trains régionaux et les bus. Idée reprise à son compte en septembre dernier par Emmanuel Macron. Et bien, 7 mois plus tard, il n'y a pas d'accord sur le financement de cette mesure. Le ministre des Transports, Patrice Vergriete, annonce donc que ce pass ne verra pas le jour cet été. Et puis toujours au rayon transport, le syndicat SPAF, qui représente les pilotes d'Air France, appellent ses membres à faire grève. Ce seront les 15 et 16 avril prochains, donc pendant les vacances scolaires. Les médecins sont de moins en moins nombreux à se déplacer chez leurs patients. Les chiffres sont d'ailleurs impressionnants. 77 millions de visites à domicile il y a 20 ans, seulement 13 millions l'an dernier. Explication pour SOS Médecins, ces visites n'ont pas été revalorisées depuis 20 ans. C'est 36,50 euros aujourd'hui. Alors l'association demande à ce que cette revalorisation intervienne en urgence, puisque les négociations avec l'assurance maladie touchent à leur fin. Écoutez le docteur Jean-Christophe Masseron, c'est le président des SOS Médecins.
Ça fait 20 ans qu'on alerte sur la nécessaire revalorisation de cet acte, puisque aujourd'hui, une visite est trois fois moins bien rémunérée qu'une consultation à temps passé égal. Sur une heure de temps passé, vous réalisez une visite à peu près auprès d'un malade en déplacement, vous facturez 36,50 €, et puis au cabinet, vous voyez deux à trois malades, ce qui vous rapporte 75-80 € bruts. Bien sûr, ce sont des honoraires bruts, donc vous avez un différentiel qui est important. Vous êtes beaucoup moins attractif sur la visite à domicile, vous la réalisez uniquement parce que vous savez les services qu'elle rend. Donc on risque d'avoir des hospitalisations en plus grand nombre, des transports ambulances vers l'hôpital. Ça coûte énormément plus cher. Chez nous, on a un taux d'hospitalisation très faible. Les gens, on les garde à 93% à domicile. Donc la visite permet le maintien à domicile, permet de s'occuper des plus fragiles. Et le risque, s'il y a un désengagement sur cette visite à domicile, c'est de perdre de vue tous ces patients fragiles qui n'auront pas de solution.
Le président de SOS Médecins au téléphone de Victor Dolande. Les pics de crue ont été atteints la nuit dernière. Dernière dans l'Yonne, dernier département en vigilance rouge, quand l'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or sont toujours en orange pour les crues. Mais les craintes demeurent dans ces départements, notamment pour les sites touristiques. Ainsi, en Côte d'Or, près de Montbard, la grande forge de Buffon est inondée. Or, ses propriétaires viennent d'y faire pour près de 300 000 € de travaux, financés en partie par le loto du patrimoine. Thomas Nougaillon s'est rendu sur place.
La vieille usine ressemble à un paquebot de pierre au milieu d'un immense lac. On a du mal à croire que normalement l'Armançon se trouve à 200 mètres de la grande forge. Alix Mounier, la fille des propriétaires.
Là, on a la dérivation qui alimente la forge. Donc le canal de Bourgogne n'a aucune connexion et puis lui, il ne bouge pas. On voit bien, l'eau est claire, il est sage. Et donc, quand l'Armançon monte, la dérivation monte. Donc en effet, le pré entre les deux, ça devient un immense lac. Même si, en effet, il y a une décrue, c'est encore très très haut. La décrue est quand même bien plus lente que la crue.
Résultat, la grande forge de Buffon, qui a obtenu le soutien du loto du patrimoine en 2019, a les pieds dans l'eau et l'inquiétude est à son paroxysme pour les propriétaires.
Notre grande crainte, c'est que tous les ouvrages hydrauliques qu'on a refait depuis justement 2019, la sélection de la forge par le loto du patrimoine, pour refaire le système hydraulique, c'est qu'ils soient endommagés. Et c'est vrai qu'une crue comme ça, ça dépasse de loin toutes nos grosses crues récentes de 2013, 2015. On verra quand il y aura la décrue et qu'on pourra voir, nous, on a des marques gravées dans la pierre. On verra justement où est la trace de l'eau par rapport à ces marques-là.
La famille qui a reçu plus de 16 000 visiteurs l'an passé va tout faire pour rouvrir ce samedi, début des vacances de printemps. Mais avant ça, il faut que la rivière poursuive sa décrue pour pouvoir tout nettoyer, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts. Pour l'instant, le bâtiment est toujours envahi par au moins 2 mètres d'eau.
Reportage France Bleu Bourgogne. De la pluie et des pavés. Voilà le cocktail qui fait frémir les coureurs qui seront au départ dimanche de Paris-Roubaix, la reine des classiques cyclistes. D'autant que ces dernières semaines, plusieurs courses ont été marquées par des chutes collectives. Alors les coureurs demandent des modifications sur le parcours. Par exemple, changer l'entrée de la célèbre trouée d'Arambert. C'est à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Stéphane Barbereau, en créant une chicane.
Même le directeur de l'épreuve, Thierry Gouvenou, comprend l'inquiétude des coureurs.
Alors la demande ici à Arambert me paraît tout à fait logique, parce que j'ai été personnellement coureur, je l'ai fait 12 fois en tant que professionnel, 12 fois je suis arrivé là en me disant comment je vais en ressortir. Quelque part, on arrive ici, on joue un peu à la roulette russe. Il faut se l'avouer, parce que c'est faux plat descendant, ça va très vite, le pavé secoue énormément, il faut vraiment débrancher le cerveau pour pouvoir rentrer dans la trouée d'Arambert à fond.
Le but, divisé par deux quasiment la vitesse, pour arriver à 35 km/h au lieu de 60. Le parcours va être légèrement dévié pour créer une chicane. Salvatore Castiglione, le maire de Wallers-Arambert, espère concilier sécurité et légende du lieu.
Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il n'y ait plus de charme et qu'il n'y ait plus d'attrait à venir ici au niveau de la trouée. Donc il faut à la fois régler la question de la sécurité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde, c'est un spectacle gratuit. Il faut faire en sorte que toutes les personnes ici présentes prennent plaisir.
Parce que cet aménagement va compliquer l'accueil des 10 000 spectateurs avec de nombreux stands, l'ancien directeur sportif de Cofidis, Alain Deleuil, craint que cela crée un goulot d'étranglement.
Il y a toutes les voitures suiveuses, on va les mettre où ? S'ils font le tour du rond-point, est-ce qu'elles vont pouvoir virer en même temps ? Les coureurs qui vont te lâcher dans un velu vont rentrer dans les voitures ? Franchement, je suis pas convaincu.
Il faut dire que cette chicane sera réalisée dans l'urgence. Le syndicat des coureurs n'a fait la demande aux organisateurs que vendredi dernier.
Stéphane Barbereau, France Bleu Nord, Mathieu Van Der Poel sera l'immense favori de Paris-Roubaix ce dimanche. Lui sera l'une des stars des Jeux de Paris l'été prochain et ce sera d'ailleurs sa dernière compétition. La star du handball danois Mikkel Hansen, triple champion du monde, annonce aujourd'hui qu'il arrête sa carrière après les Jeux Olympiques.
Moteur !
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
plaît.
Mercredi, c'est cinéma et les conseils d'Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Rebonjour.
Alexis, vous nous conseillez cette semaine un film français, pas avec un acteur qui a une immense filmographie, c'est avec un certain Benjamin Biolay.
Toi, on t'invite à un concert et tu détruis ta chambre d'hôtel et une bagnole.
11 350 pour 2-3 érafles, c'est des gros malades.
Tu me fais chier, Arthur. Tu vas repasser aux infos générales.
Arthur Berthier. Voilà, cet extrait résume bien l'enjeu de Quelques jours pas plus, réalisé par Julie Navarro. Arthur Berthier est journaliste rock au service culture de Libé, mais ses nombreux écarts de conduite poussent sa direction à le sanctionner. Il doit retourner sur le terrain, et ça commence par l'évacuation d'un camp de migrants lors de laquelle il se prend des coups de matraque par des CRS, mais c'est aussi le coup de foudre pour Camille Cotin, qui incarne la responsable d'une ONG. Arthur accepte alors d'héberger un réfugié afghan pour quelques jours, pas plus. Ce scénario pas forcément très original avait toutes les chances d'accoucher d'un film lourd et sans intérêt. C'est tout le contraire. Julie Navarro a su trouver le ton juste et elle offre à Benjamin Biolay, très drôle et totalement en roue libre, l'un de ses meilleurs rôles au cinéma.
À l'affiche également Drive Away Dolls, signé Ethan Coen, qui pour ceux qui l'auraient oublié est l'un des deux frères Coen.
Une comédie déjantée qui s'inscrit néanmoins dans la lignée des films qui ont fait le succès de la fratrie. Meurtre, humour trash et dialogues absurdes sont au rendez-vous.
They drive the car instead of you. Is that bad?
Bad if they find the goods.
Ethan Coen nous embarque dans un road movie avec deux jeunes amies lesbiennes qui transportent, malgré elles, une tête humaine dans une glacière cachée sous le coffre de leur voiture. Drive Away Dolls ne vous laissera sans doute pas un souvenir impérissable, contrairement à plusieurs très grands films des Coen Brothers, mais c'est un divertissement malin et impertinent comme Hollywood n'en produit plus beaucoup.
Et direction le Sénégal maintenant.
Râler, les blessures de l'enfance, c'est le dernier volet de la trilogie que Moussa Senapsa consacre à la société sénégalaise en pleine ébullition, comme on a pu le voir ces derniers jours, avec l'arrivée au pouvoir d'un opposant fraîchement sorti de prison. Des griots qui ponctuent l'intrigue à la manière d'un chœur antique dans ce film choral où nous suivons notamment Awa et sa tante Fatou qui doivent toutes deux faire face au patriarcat et aux agressions sexuelles. Je vous déconseille en revanche Black Flies avec Sean Penn dans le rôle d'un ambulancier new-yorkais au bord de la crise de nerfs.
C'est pas bien.
La présence en compétition à Cannes l'an dernier de ce film pompier et problématique à bien des égards reste pour moi un grand mystère.
Quoi d'autre au cinéma cette semaine?
Le blockbuster Le Nouvel Empire avec Godzilla et King Kong qui unissent leurs forces. Yurt, un drame sur la jeunesse turque dont Corinne Pellissier nous parlera ce soir dans Un jour dans le monde. Et Sidonie au Japon avec la présidente Isabelle Huppert dans le rôle, tiens, d'une romancière.
Qui sera avec nous dans quelques minutes pour parler du prix du Livre Inter. Merci Alexis Demeyer. Mais avant le Livre Inter, une autre success story plus lucrative celle-là, celle de la star américaine Taylor Swift. Taylor Swift, désormais milliardaire, selon le dernier classement des fortunes des célébrités mondiales. C'est le magazine Forbes qui a fait les comptes. C'est la première artiste, femme ou homme, à franchir ce seuil grâce au seul revenu tiré de sa musique et notamment sa tournée en cours. 152 dates, la tournée la plus lucrative de l'histoire qui passera par la France dans les prochaines semaines. Taylor Swift, 34 ans seulement, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, qui pourra prétendre au prix du Livre Inter et quels seront les jurés? La fin du suspense dans quelques minutes avec Eva Bétan et la présidente de ce jury, Isabelle Huppert. Séquence exceptionnellement enregistrée hier après-midi. 13h45, notre feuilleton, nous sommes dans la vie des frontaliers qui travaillent chaque jour au Luxembourg, ils sont lorrains. 13h50, c'est la France. Et c'est une chanson Éric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Éric, vous nous parlez aujourd'hui d'une nostalgie française.
Et oui, une partie des Français regrette surtout l'époque qu'incarnait l'ancien président Georges Pompidou, disparu il y a tout juste 50 ans hier.
Et avec vous, Frédéric, un parolier et critique.
Jean-François Mondeau, journaliste, critique de jazz et auteur de tous les textes du dernier album de Dominica. Mais ce n'est pas une chanson de Dominica qu'il a choisie, non. Nous écouterons Yves Montand.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Le 7 octobre dernier marquait le début d'une nouvelle tragédie dans le conflit israélo-palestinien, avec de très nombreuses victimes sacrifiées de part et d'autre. Dans Holocauste, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident, Gilles Kepel livre une analyse percutante du drame qui a fait basculer les équilibres du monde. Un décryptage saisissant des origines et des conséquences de cet affrontement par le plus grand spécialiste du monde arabe contemporain. Holocauste, l'ouvrage de référence pour comprendre ce qui se joue au Moyen-Orient et à l'échelle mondiale. Holocauste de Gilles Kepel aux éditions Plomb.
France Inter, partenaire de Rock en Seine. Rendez-vous pour la 20e édition du Festival Rock en Seine du 21 au 25 août. 5 jours de concerts aux portes de Paris avec Lana Del Rey, Massive Attack, PJ Harvey, The Smile, Zao de Sagazan, Gossip, Olivia Dean, Samfa, The Last Dinner Party, Jungle, The Kills et de nombreux autres artistes. Rock en Seine, c'est l'événement de l'année en Ile-de-France. Avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un ciel changeant.
Oui, il pleut actuellement entre l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, mais cette perturbation va s'évacuer cet après-midi pour laisser place à un ciel de traîne où les nuages et les éclaircies alterneront. Ce temps variable va s'étaler des côtes de la Manche à la vallée de la Garonne jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes et au Grand Est. Les nuages les plus menaçants pourront s'accompagner d'averses et quelques orages isolés sont même possibles cet après-midi. La Normandie et l'ouest des Hauts-de-France seront épargnés par les averses. Entre les Landes, le Pays Basque, le Roussillon et les régions de la Méditerranée, l'après-midi sera largement ensoleillé, excepté sur les Pyrénées qui pourraient avoir quelques averses. Et puis sur l'ouest de la Bretagne, les éclaircies vont progressivement s'effacer à l'approche d'une nouvelle perturbation pluvieuse. Les températures maximales sont voisines des normales de saison, variant entre 14 et 17 degrés sur la moitié nord et 15 à 22 degrés plus au sud. Prévoyez 17 degrés à Paris et à Lyon et 20 degrés par exemple à Toulouse et à Nîmes.
C'est très doux.
C'est très doux, mais on se dirige surtout vers un coup de chaud, en particulier dans le sud-ouest qui verra les maximales dépasser les 25 degrés dès demain, vendredi et samedi. Les températures vont encore monter, les 25 degrés seront aussi dépassés sur les régions du nord. Près des Pyrénées, ce sont même des pointes à plus de 30 degrés qui seront possibles. Et puis on rappelle que Lyon est toujours en vigilance rouge au cru et que l'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or sont en vigilance orange pour le même paramètre.
Merci Sébastien Léas. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une étape importante aujourd'hui, avant la révélation le 3 juin prochain, dans deux mois donc très exactement, du 50e lauréat du prix du Livre Inter. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du prix du Livre Inter. Nous allons dévoiler dans un instant les 10 livres en compétition, ainsi que les noms des 24 jurés, 24 auditeurs, 12 hommes, 12 femmes qui vont constituer ce jury que vous présidez cette année. Bonjour Isabelle Huppert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. On va d'abord mettre fin au suspense. À vous l'honneur, chère Eva.
Alors, Pierrick Bailly a écrit un livre qui s'appelle La Foudre, édité chez POL.
François Bégodeau est en compétition pour L'Amour, c'est aux éditions Verticales.
Camille de Peretti pour L'Inconnu du portrait, chez Calman Lévy.
Sophie Divry pour Fantastique, histoire d'amour, c'est au Seuil.
Emma Doud van Trutzvik, Ceux qui appartiennent au jour, édition de Minuit.
Phoebe Hadji Marcos Clark. Alien, c'est le titre du roman, c'est aux éditions du Sous-Sol.
Sylvain Prudhomme a écrit L'Enfant dans le taxi, édition de Minuit.
Maria Pourcher, en compétition également pour Western chez Stock.
Et Eric Reinhardt pour Sarah, Suzanne et l'écrivain chez Gallimard.
Et dernier ouvrage en compétition, Le Convoi de Beata Oumoubieyi-Mérès. C'est aux éditions Flammarion. Voilà pour les livres. On passe au juré de ce prix du Livre Inter 2024. Et on commence par les femmes. Elles sont 12, Eva.
Oui, Rama Ben Hassoun, elle est chercheuse en cancérologie. Elle a 30 ans, elle vit à Lyon.
Séverine Debier, elle est médecin, elle a 48 ans, elle habite à Tours.
Jeanne Jouffret, éducatrice spécialisée, 36 ans, elle vit à Laigneux dans la Loire.
Elle sera accompagnée de Léa Leguillette, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle a 33 ans, elle habite la Ferté-Milon, c'est dans l'Aisne.
Élodie Leneutre est artisane, peintre en bâtiment, rénovation, 50 ans, elle vit à 7 dans l'Hérault.
Myriam Panou est chargée de projet santé en mission locale, elle a 51 ans, elle réside à Lampol-Ploirzel, c'est dans le Finistère.
Oui. Claudie Parolini est comédienne, elle a 72 ans, elle vit à Buxy en Saône-et-Loire.
Ludivine Rogue sera aussi dans ce jury, elle est professeure de français à Montrouge, elle a 44 ans.
Caroline Siménoer, est libraire. Elle est actuellement au chômage. Elle a 33 ans et elle vit donc à Bordeaux.
Mélanie Simon sera là. Elle est professeure des écoles. Elle a 35 ans. Elle habite à Aubervilliers.
Claire Strifling est consultante. Elle a 43 ans. Elle vit à Romagna dans le Puy-de-Dôme.
Et Agathe Vernet, elle est professeure de lettres à la retraite. Elle a 60 ans. Elle est grenobloise. On passe aux hommes.
Voilà,
Eva.
Puisque c'est un jury paritaire, oui. 12 femmes, 12 hommes. Oui, c'est moi qui commence.
Oui, c'est
pardon.
Vous, c'est ce qu'on s'était
Patrick
dit.
Patrick Babayou est expert risque crédit. Il a 54 ans, il vit à Niort.
Raphaël Beaulieu est boulanger, il a 48 ans, il demeure à Méral, en Mayenne.
Landry Boussac est moniteur éducateur, 42 ans, il vit à Revel, en Haute-Garonne.
Théo Duchossois, sans emploi, il a 29 ans, il habite à Saint-Ouen-sur-Seine.
Didier Eretzmann est retraité, il a 70 ans, il vit à Bois-Jérôme, Saint-Ouen, dans l'Eure. J'ai hâte de le rencontrer car il a commencé à candidater au Livre Inter en 1979.
Un historien de l'art, Jonathan Friedman, il a 33 ans, il vient du Canet, dans les Alpes-Maritimes.
Andrew Isard est comédien, 38 ans, Paris.
Et Jérémy Martin, qui est fonctionnaire territorial, il a 38 ans et il habite à Nancy.
Yves Nétins, éducateur en milieu scolaire, 61 ans, il vit à Cours-Saint-Étienne en Belgique.
Didier Peny est retraité, il a 66 ans, il habite à Paris.
Glenn Pouliken est paysagiste, 35 ans, il vit à Brest.
Et enfin, le dernier, Oscar Sodini-Levé, il est étudiant, il a 18 ans et il habite à Paris. Isabelle Huppert, vous les avez lus, ces courriers. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la lecture de ces lettres ?
J'ai été éblouie. C'était passionnant comme lecture. Je me suis demandé si vous n'aviez jamais pensé à les éditer, ces lettres. Elles sont extraordinaires.
Oui.
Elles sont incroyables. Ça m'a emportée. Je ne pouvais plus les lâcher. J'ai envie de les lire et les relire. Elles donnent un rapport à la lecture extraordinaire entre sur la transmission, sur la variété, sur la franchise aussi des opinions, des goûts, de rentrer dans toute la vie, aussi l'honnêteté avec lesquelles tous ces lecteurs se présentent. Ce ne sont pas des lecteurs, ce sont des écrivains. C'est extraordinaire, j'étais éblouie. Il faut les éditer, je trouve.
C'est la sincérité de ce qui est dit qui vous a touché.
Oui, la sincérité, l'intelligence, les goûts qu'ils ont, la manière dont ça irrigue leur vie, qui chacune sont très très différentes les unes des autres. Il y a tous les âges qui sont représentés, tous les métiers. Franchement, c'est enthousiasmant. Et c'est très rassurant sur la lecture, je trouve. Enfin, je ne sais pas si on a besoin d'être rassuré, mais c'est vrai que, quand même, la lecture, ça fait du bien.
Il y a notre plus jeune auditeur à 18 ans, et il a une très jolie phrase. Il dit qu'il est candidat au Livre Inter pour montrer que la lecture appartient à la jeunesse, contrairement aux absurdités qu'on peut dire.
Exactement.
Et il y a un autre juré.
La jeunesse lit.
Oui, mais il y a un autre juré qui dit que, ça renvoie à vous Isabelle Huppert, qu'il a eu déclic de la lecture en étant en voiture avec ses parents et il entend Guillaume Gallienne lire Madame Bovary.
Oui, absolument.
Et ça, c'est
oui,
un très...
C'est très, très émouvant. Non, et puis il y a ceux qui sont qui ont rencontré la lecture à différentes étapes de leur vie. Certains, ça vient de leur enfance. D'autres, ils s'y attendent pas. Ils sont initiés à la lecture tardivement. C'est vraiment incroyable, tous ces témoignages.
Il y a aussi un côté qui ressort dans ces lettres-là, mais je dirais aussi dans les 2000 et quelques 500 qu'on a lus à part ça. C'est beaucoup de gens disent avoir eu la lecture dans son enfance ou pas, ça peut changer le parcours d'une vie,
avoir eu des livres chez soi, ou un professeur. Beaucoup, voilà. Effectivement, rappellent un professeur qui a été déterminant, qui les a initiés à la lecture, à travers un ouvrage en particulier. Il y a ceux aussi qui racontent comment ils ont rejeté un livre dans un premier temps, et comment finalement, enfin j'ai plus l'exemple précis qui m'arrive à l'esprit, mais comment finalement ils y sont revenus, et ils ont fini par l'aimer. Il y a tous les accès possibles aux livres et à la littérature.
Et il y a souvent les livres qu'on n'a pas réussi à lire. Alors très souvent, il y a James Joyce, il y a Proust, mais j'ai été étonnée de voir quelqu'un...
Il y a Faulkner aussi,
Faulkner.
Qui a beaucoup de mal à lire Faulkner.
Et j'ai vu dans un des jurés, je ne sais pas si c'est dans ceux qu'on a sélectionnés ou d'autres, qui disait Fred Vargas. Pourtant, ça n'a pas l'air difficile.
Ah bah, il y en a un qui adore Fred Vargas et l'autre qui a du mal à dire.
Exactement. Fred Vargas. Donc, on voit les deux. Ce qui est intéressant, c'est que les gens n'hésitent pas à dire je n'aime pas. Je n'aime pas, c'est aussi on a le droit de ne pas aimer.
Bien sûr.
Je crois que ce sont les derniers mots de la lettre de Jonathan qui m'ont frappé, qui signe en fait du plus profond de mon petit cœur, car je ne crois pas m'être jamais autant livré dans une lettre. Il faut les recevoir aussi, Eva, vous qui lisez ces milliers de lettres année après année, on vous amène des histoires personnelles qui peuvent être enthousiasmantes, qui peuvent être terribles aussi. Parce que la lecture, c'est tout ça.
Les gens vont très loin. Et comme c'est par le biais de la lecture, il y a une pudeur en même temps. Quelquefois, c'est au détour d'une phrase que les gens vont vous dire quelque chose d'extrêmement important. On n'est pas, je dirais, dans la télé-réalité. On n'est pas « je viens, je m'épanche, je me répands ».
Oui,
qu'est-ce que vous ressentez,
aussi,
vous
qui rencontre une lectrice à travers un site de rencontre.
Ah, oui.
Ça, c'est formidable. Et qui, finalement, il rencontre, finalement, l'histoire ne va pas avoir lieu. Mais ils ont développé toute une relation à partir de ça, à partir de la littérature.
Oui, il y a des lettres qui vont nous parler aussi de problèmes familiaux lourds. On pense que la société française a évolué par rapport à l'homosexualité, par exemple. Non, il y a encore des parents qui rejettent un enfant homosexuel.
Ah oui,
on voit
l'enfant qui n'a jamais revu sa mère et son père, oui. Absolument.
Voilà, donc il y a toutes ces choses-là.
On voit à quel point la littérature peut être aussi consolatrice.
Oui.
Bon, c'est pas simplement un échappatoire, c'est aussi une consolation, dans le cas de ce juré en particulier, bien sûr.
Oui.
Vous vous êtes reconnue, Isabelle Huppert, dans le rapport que ces auditeurs d'Inter, lecteurs, que vous dites peut-être écrivains en devenir, ont avec la littérature.
Oui, comme quand ils définissent la littérature comme une évasion, c'est un livre, c'est une promesse, c'est avec vraiment rien du tout, enfin rien du tout. Si, ça, c'est quelque chose, mais je veux dire, c'est pas très compliqué de lire un livre. Et c'est la disproportion finalement entre l'objet et le monde auquel ça nous fait accéder, la facilité avec laquelle ça nous fait accéder. On a vraiment envie que tout le monde ait cette possibilité-là. Tout le monde ne se la donne pas, ne se l'autorise pas ou ne lui fait pas cette confiance finalement dans la lecture, alors que c'est un échappatoire extraordinaire.
On a des lecteurs compulsifs pour certains d'entre eux. Alors moi, j'ai bloqué un peu sur le dry January. Je crois que c'est Didier qui dit « je fais le dry January de la lecture ». J'ai cru innocemment qu'il ne lisait pas pendant un mois. Pas du tout, en fait, Eva. En fait,
il s'interdisait d'aller acheter les livres pendant un mois.
Oui, parce qu'il y a ceux qui décrivent tellement bien aussi les piles de livres.
Parce qu'il en a tellement
à lire. Qui s'élèvent dans les chambres, dans les maisons. Ça, on visualise les situations.
Et il y a une notion que moi, j'en ai lu beaucoup de lettres dans ma vie du livre Inter, que je n'avais jamais vu quelqu'un qui dit aussi le côté négatif de la lecture. C'est-à-dire que si vous êtes un enfant introverti, vous allez vous isoler. Ça va vous servir quasiment de prétexte pour vous retirer du monde. Et ça, je trouvais ça très intéressant de continuer à lire en étant conscient qu'à certains moments, ça vous avait desservi. Et cette personne dit à un moment, je ne suis plus la fille bizarre et boulotte. Je suis devenue quelqu'un d'autre. À un moment donné, j'ai plus été ça.
Comment vous vous sentez après la lecture de ces lettres et avant la rencontre dans deux mois avec ces jurés, Isabelle Huppert? Ça vous projette vers le moment, vers la sélection?
Je me sens très impatiente de les rencontrer. Oui, j'ai envie de voir quel visage, quelle personne se cache derrière ces mots. Je suis très heureuse et très impatiente. Et puis, je suis surtout très impatiente de découvrir les livres aussi.
Ah ben oui, vous allez voir. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites sur vous. Alors, c'est pas pour faire une collection de compliments. Par exemple, le garçon de 18 ans, il a particulièrement aimé la pianiste Haneke. Et il dit « De l'opacité du jeu d'Isabelle Huppert émane la même lumière, la même parfaite fragilité qui se reflète dans la littérature entre les mots. » Est-ce que la manière dont les lecteurs parlent de vous a semblé différente, qu'il y avait quelque chose?
Elle m'a paru assez réceptive à la nuance, à la nuance de choses qui peuvent être exprimées dans ses vies. Mais quand vous prenez l'exemple de la pianiste, c'est justement tiré du livre de Elfriede Jelinek. Et c'est vrai que la littérature, par rapport au cinéma, enfin, je peux pas l'opposer au cinéma, mais vous permet de pratiquer l'art de la nuance qu'on a envie de prolonger dans le cinéma, mais de partir d'un livre, ça vous donne cet accès-là, à cette subtilité, à cette complexité.
J'ai pas l'impression, et tant mieux, qu'ils seront impressionnés au sens avoir peur de parler par vous.
Je serai beaucoup plus impressionnée par eux, j'espère que eux le seront par moi. en tous les cas.
Mais vous allez voir, quand, et on les attend, parce que nous aussi, on les connaît que par lettre. Et tout le monde se découvre en même temps, une demi-heure avant les délibérations. Et il se passe quelque chose.
Bien sûr.
C'est une sorte d'alchimie qui se crée à ce moment-là.
Ce qu'on peut dire aussi, Eva, parce qu'il y a évidemment énormément de déçus qui auraient aimé vous rejoindre et nous rejoindre dans deux mois, que certains des auditeurs et des auditrices qui ont été sélectionnés l'ont été après une, deux,
beaucoup
trois, dix...
Beaucoup de tentatives.
Alors, nous avons ce fameux monsieur.
Ils décrivent leur déception très très bien. Oui, il y a un monsieur qui s'est présenté beaucoup de fois, qui a fini par arrêter, de Guerlas,
oui,
qui a fait une dernière tentative. Et puis finalement,
alors je ne sais, il a commencé
nous.
En 79. Je ne sais pas combien il en a fait depuis 79. On lui posera la question. Oui, dans notre jargon, c'est affreux. On les appelle les récidivistes.
Ah.
Et sur les 24 sélectionnés,
c'est de la bonne récidive.
Il y a
6
récidivistes. Donc c'est pas mal quand même. Donc c'est un site à recommencer, et dont même un finaliste. C'est-à-dire qu'il était dans les 5 dernières lettres de la région de laquelle il écrivait. Donc il y a de l'espoir.
Un quart des sélectionnés ont donc retenté leur chance. Donc
c'est comme la pub du loto.
Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que dit Claire. Elle dit « Longtemps j'ai considéré cette aventure comme impossible, inatteignable, un peu comme l'alpiniste amateur regardant le sommet de l'Everest. Alors je me lance, moi la fille qui n'ose jamais. » Voilà, une belle leçon,
ouais,
exactement.
Ouais.
Mais on revient à ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, Isabelle Huppert. Ils ont des talents d'écrivains.
Incontestablement, ils sont tous très 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 différents. Oui, ils savent écrire.
Les prochaines
c'est
étapes.
Sûr.
Les prochaines
maintenant,
étapes.
Maintenant, Eva, il va falloir lire.
Bien sûr.
Ces 10 ouvrages.
Oui, les jurés aussi. Donc, nous allons les leur envoyer au plus vite possible. Et puis, on diffusera ici notamment des interviews des 10 auteurs.
On aura les 10 auteurs à 13h45, dans les deux semaines qui vont précéder la révélation du livre inter, grâce à vous.
Et puis, les délibérations seront le dimanche 2 juin. Et on garde ça secret jusqu'à l'annonce à l'antenne, le lundi 3 dans la matinale.
Exact.
Et puis, on viendra chez vous après, le lundi 3.
On se retrouvera tous ensemble le 3
avec
juin.
Avec les jurés, bien sûr.
On sera là.
En compagnie des jurés.
Avec nos jurés.
Du lauréat ou de la lauréate de ce 50e prix du livre inter.
50 ans déjà.
Ouais.
Oui.
C'est fou, hein. C'est un beau prix. Ouais,
formidable.
Merci infiniment, Isabelle Huppert, d'avoir été avec nous dans ce 13-14. Je vous dis à deux mois et je vous dis excellente lecture d'ici
à très
là.
Bientôt.
Merci,
ouais.
Eva Bétan, d'avoir été avec nous. Et à 13h46, place à notre feuilleton entre Moselle et Luxembourg. Cette semaine, 120 000 Lorrains passent cette frontière chaque jour, attirés notamment par les salaires au Grand-Duché. Et tout cela a des conséquences pour les communes françaises. Elles ont de plus en plus de mal à retenir les professionnels de santé. On retrouve notre reporter Manon Derdevé à Aumesse, à une dizaine de kilomètres du Luxembourg.
Je m'appelle Mireille, je suis venue à Aumesse après mon mariage en 1955. C'est de plus en plus difficile de trouver du personnel soignant. Ainsi, mon mari, qui était très âgé, aurait eu besoin de soins à domicile. Il n'a jamais pu trouver un kiné qui se rende à la maison. Ils sont débordés de travail. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un kiné. Mais enfin, même si ça se présentait, je ne saurais pas à qui m'adresser. Parce qu'il y a une sorte d'exode du personnel soignant. Alors, évidemment, c'est difficile de trouver de plus en plus. Chez nous, sur les 4 médecins, 2 vont s'en aller. Et ils ne sont pas remplacés.
J'aimerais un rendez-vous le plus rapidement possible.
Soyez ici à 18h30.
Je suis docteur Kuntz Stéphanie, donc je travaille comme médecin généraliste à Aumesse depuis 2 ans. Dans le coin, il n'y a plus beaucoup de médecins, beaucoup de patients n'ont plus du tout de médecins traitants, ça devient très compliqué. On n'arrive pas à voir tous les patients comme il le faudrait.
Votre carnet de rendez-vous, il est complet ?
Il est complet, tout le temps. Donc les gens qui sont malades de la journée, c'est sûr qu'on ne choisit pas d'être malade, donc on les voit en plus, donc on est tout le temps stressé parce qu'en fait, il y a un monde fou. Les médecins, comme les kinés et tout ce qui est paramédical, partent travailler au Luxembourg. Ils sont mieux rémunérés et donc actuellement, comme on n'est pas loin du tout de la frontière, les gens partent tous.
Ça veut dire que vous allez vous retrouver plus que deux pour gérer toute la patientèle.
Alors, il y en a un qui part à la retraite. Le second travaille comme salarié à côté, donc il n'est pas beaucoup au cabinet. Donc, on va se retrouver effectivement à deux médecins à devoir gérer les patients, donc de notre collègue qui part à la retraite, ce qui va être très compliqué. On ne sait pas du tout comment on va pouvoir faire. On a proposé à des remplaçants, à des jeunes. Donc, pour le moment, ils ne veulent pas du tout s'installer.
Vous êtes une jeune médecin. J'imagine que cette situation, elle vous fait peut-être peur.
C'est exactement ça, les conditions se détériorent, on n'arrive plus à hospitaliser les gens, on n'arrive plus à soigner les gens comme il faut. Pour une simple radiologie, il faut je ne sais combien de jours, donc ça devient très compliqué pour nous et on se pose même la question de ce qu'on va faire, oui.
Vous vous posez la question de savoir si vous allez continuer ?
Tout à fait. Ou si je vais rester conventionnée en secteur 1, comme beaucoup de médecins dans le coin, on risque de déconventionner en secteur 3.
Vous pensez aller travailler au Luxembourg ?
Alors c'est quelque chose que je n'envisageais absolument pas jusqu'à présent, parce que j'ai pas du tout envie de faire honnêtement la route. Et puis voilà, mais là ça me trotte tout doucement, parce que c'est-à-dire qu'on n'arrive plus du tout à soigner les gens, donc comme il le faut, et donc c'est vraiment frustrant. On est impuissant, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus hospitaliser, il n'y a plus de place à l'hôpital, il n'y a plus de place aux urgences, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de radiologues, il n'y a plus rien. Ça devient très compliqué, très très compliqué. C'est la catastrophe.
Une semaine dans leur vie, troisième épisode, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50, le mercredi. Éric Fotorino du 1 Hebdo nous parle de cette France qui change sans qu'on le voit. Et aujourd'hui, Éric, une France qui voudrait ne pas avoir changé et qui cultive la nostalgie des années 70.
Exactement, cher Jérôme. Différents auteurs et parfois témoins que nous avons interrogés cette semaine dans le 1 Hebdo soulignent cette nostalgie de la France des années 70 qu'incarnait à sa manière bonhomme Georges Pompidou. La journaliste et ancienne présidente de Radio France, Michel Cotta, voit en lui l'homme des contradictions heureuse. L'économiste Élie Cohen lui attribue l'âge d'or de la politique industrielle française, y associant le général dans ce qu'il appelle le gaulo-pompidolisme. Et le dirigeant d'Ipsos et politologue Brice Teinturier parle de cette période comme d'une parenthèse enchantée, ajoutant que la France d'aujourd'hui, angoissée, repliée, fracturée, fatiguée, est le miroir inversé de cette France des 70s. Les Français, en général, ne sont d'ailleurs pas les seuls à la regretter, y compris d'ailleurs les jeunes trentenaires ou quadras qui ne l'ont pas connue. Les trois quarts d'entre eux adhèrent à cette mémoire des Trente Glorieuses. Nombre de dirigeants politiques cultivent aussi ce regret comme une référence. Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, de François Hollande ou d'Emmanuel Macron qui ont vu en Pompidou soit l'inventeur de la présidence normale après le général de Gaulle, soit un réformateur infatigable. Dans le vivier politique de la droite, ils sont nombreux, de Laurent Wauquiez à Édouard Philippe, en passant par Xavier Bertrand ou le maire LR de Cannes, David Lisnard, ou encore le député LR du Lot, Aurélien Pradier, à vanter les grandeurs et richesses du pompidolisme.
Lequel Aurélien Pradier est né 12 ans après la mort de Georges Pompidou. Mais passons. Que regrettent au fond, Éric, les Français de cette époque ?
Au-delà de la croissance et du plein emploi, ou de l'idée que la France était véritablement un pays souverain, c'était avant les élargissements de l'Europe et la mondialisation, disons qu'ils regrettent une certaine douceur de vivre en ville comme à la campagne et une consommation décomplexée, sans culpabilité, due à notre empreinte carbone. Prenons l'exemple de la bagnole, que Pompidou disait aimer bien avant Macron. Il roulait dans une Porsche d'occasion, la Porsche tranquille si vous voulez. Les modèles en vogue sortaient de chez Citroën, la fameuse DS présidentielle ou la populaire De Deux, ou de chez Renault avec la R16 et son rayon, et la R5 apparue en 1972 qui plaisait aux jeunes et aux femmes. Conduire était encore un signe de liberté individuelle avant les chocs pétroliers qui ont conduit à moins d'insouciance vu la flambée des prix à la pompe. Et la bagnole fait bien moins rêver, on enregistre une baisse de 20% des ventes de voitures neuves depuis l'épidémie de Covid.
Alors, cette nostalgie n'est-elle qu'un heureux souvenir ? Ou bien nous donne-t-elle des pistes pour demain ?
Alors Jérôme, d'un point de vue économique, elle n'est en effet qu'un souvenir, car l'heure n'est plus à construire de grands champions ou des monopoles nationaux comme le furent en leur temps Pechiney, la Compagnie Générale d'Électricité ou Rhône-Poulenc. Les règles de la concurrence font qu'on ne pense qu'à l'échelon européen, ce qui condamne la notion de grandeur nationale. Ce sont en revanche les écrits de Pompidou, en particulier son livre visionnaire, Le Nœud Gordien, qui nous alerte. L'ancien président fait un éloge de l'humanité attendu d'un président,
en pourfendant ce qu'il appelle l'absentéisme du cœur. Et il craint qu'un jour ce nœud gordien, les blocages de la société française, ne soit tranché par un homme fort et casqué. Le fascisme, écrit-il alors, est plus près de nous que le totalitarisme communiste, des mots à méditer.
Et c'est donc à la une du 1 Hebdo ce mercredi, merci Éric Fautorino, avec une belle photo de deux chevaux. Je ne sais pas si vous aviez une Deudeuche, Frédéric Pommier.
Non, j'ai eu une Opel Corsa.
Ah, très bien, ça nous plaît aussi. C'est la France, c'était un peu après. Ah, c'est une chanson, Frédéric, votre invité aujourd'hui est journaliste, critique de jazz et parolier. Il s'appelle Jean-François Mondeau.
Il a écrit les textes du nouvel album de Dominica Memento, 13 titres inspirés par l'atmosphère nostalgique et la poésie des romans de Patrick Modiano. Jean-François Mondeau souhaitait, dit-il, traduire en chanson le brouillard de Modiano. Il y est parvenu et c'est la voix d'Yves Montand qu'il a souhaité qu'on écoute, l'une des voix qui a accompagné son enfance.
C'est un des premiers trucs que j'ai écouté à la maison quand j'avais une dizaine d'années. Il y avait des disques de Montand qui traînaient, donc c'était dans les années 80. Et j'adorais ce gars. Parmi tous les disques que j'ai acheté notamment ce disque de 1984 qui s'appelle Yves Montand chante David McNeil. Et c'est un super disque. C'est le dernier disque de Montand qui est passé totalement inaperçu parce que Montand, à cette époque-là, s'était lancé malencontreusement dans la politique.
On est forcément concerné par cette chose qu'on appelle la politique, même si on ne le veut pas.
Et pour pas mélanger les genres, il a pas fait du tout la promo de ce disque. Et donc cet album est passé un peu inaperçu, mais c'est un très très bon album parce que il chante des chansons merveilleuses de David McNeil. David McNeil, parolier magnifique. Pour moi, je le mets au même niveau que Gainsbourg. Il y a peut-être même plus de délicatesse chez David McNeil que chez Gainsbourg. Et dans la chanson que j'ai choisie, on entend Montand qui savoure les mots de David McNeil. Et à cette époque-là de sa vie, Montand a une voix de violoncelle. Et il a jamais aussi bien chanté. C'est-à-dire, dans les années 50 ou 60, on entend, il en voit un peu trop. Là, c'est un violoncelle.
Hemingway revenait d'Espagne. Scott et Zelda Fitzgerald se noyaient dans leur coupe de champagne. Vous souvenez-vous, Louisa, de son hispano-suiza? Vous aviez dit, je suis à vous. Montez, je viens d'y songer. Les domestiques ont congé. Posez ce stick, allongez-vous. Poussez sur la touche au phone. Allumez l'électrophone. Ellington est là que pour nous. La mode était à Lubitsch. Au lunch à Malibu Beach. Au week-end au Machu Picchu.
Cette chanson, Frédéric, est donc sortie en 1984. Elle a pour titre « Vous souvenez-vous, Louisa ?»
Paroles et musique de David McNeil. Une chanson dans laquelle, pour Jean-François Mondeau, Yves Montand a donc une voix de violoncelle. Violoncelle accompagnée par un piano, une trompette, une ambiance résolument jazz pour parler d'un temps qui n'est plus.
C'est une chanson nostalgique sur les années 40, que Montand a vécu, que David McNeil n'a pas vécu, mais a rêvé. Donc c'est une chanson nostalgique, comme beaucoup de chansons de cet album de 1984. Il y a une autre chanson qui s'appelle Nostalgie d'Engie. Très belle chanson aussi. Et la nostalgie, ça marche bien en chanson.
Qui attends-tu, Billy Marley? Où sont Madelon, Marjolaine?
Alors évidemment, j'ai choisi ce titre-là aussi parce que bon, ça parle de jazz et de Duke Ellington. On entend un peu un solo de trompette un peu à l'arrière-plan. Et donc je pense que vers 15-16 ans, je me suis mis à devenir un fou de jazz, à écouter beaucoup de jazz et je me dis que Montand avait préparé un peu le terrain. On infusait en moi, à travers cette voix, des parcelles de jazz qui se sont révélées quelques années plus tard. Et 5 années après, j'écoutais plus que du jazz.
Il a jamais été considéré comme un chanteur de jazz?
Non, il a jamais été considéré comme un chanteur de jazz, mais là, il est un peu crooner, quoi. Et la présence du jazz, qui est en filigrane dans certaines chansons de Montand, là, est éclatante, quoi.
C'est vrai. Pourquoi s'alarmer? Adolphe avait du charme. Vous la meilleure des armées.
Ouh. Est-ce que c'est une chanson du soir?
Je pense que c'est une chanson du soir. parce que c'est une chanson de la mémoire qui revient. Je pense pas que les souvenirs reviennent comme ça d'un bloc au saut du lit. Donc oui, pour moi, c'est une chanson du soir. Le soir commence à tomber un peu et les souvenirs reviennent.
Ça s'écoute avec un whisky ?
Ça peut s'écouter avec un whisky parce que la manière dont il joue avec les mots, on a l'impression qu'il veut les garder dans sa gorge pour mieux les savourer. Sa voix est dorée comme le whisky, il y a quelque chose de goulayant dans sa manière de chanter. Donc je vois bien un whisky quand j'entends cette chanson.
Poussé sur la touche ophone d'un quelconque électrophone, Ellington n'est plus là.
Yves Montand, vous souvenez-vous, Louisa, c'était donc Frédéric, le choix de Jean-François Mondeau.
Critique de jazz et parolier auquel on doit les textes des chansons de Memento, le tout nouvel album de Dominica.
Merci Frédéric et à demain.